Libre Radio Noctambule, au devers du tintement des lucioles, sous le bruissement des feuillages, se dissimulent brasier, tumulte et sédition. Libre Radio, le message derrière le message, derrière le message. www.libradio.org.
Nous sommes ici sur le site archéologique sous la cathédrale à Genève exactement et nous venons d'en faire la visite, d'en effectuer la visite à la lumière de la lampe de poche. Alors merci de nous recevoir ici déjà et puis peut-être pourriez-vous vous présenter ainsi que le rôle que vous entreprenez ici à la cathédrale.
Oui, alors bonjour, donc Jean-Quentin Effliguer. J'ai une formation en histoire ancienne, histoire de l'Antiquité à l'Université de Genève et également d'archéologie classique. Donc j'ai fait quelques fouilles pendant mes études et depuis quelques mois, presque une année, je suis en charge de la médiation culturelle au site archéologique de la cathédrale Saint-Pierre où je mets en place des activités en particulier pour les enfants, mais aussi donc ces visites à la lampe de poche. Une façon de découvrir le site évidemment en s'amusant un peu, c'est toujours tout à fait populaire et en même temps ça permet de focaliser sur des éléments bien particuliers dans un site qui comporte des milliers de pierres différentes.
Absolument. Alors voilà, parlons-en un petit peu de ce site. Dans quelles conditions et quand a-t-il été mis au jour?
Oui, alors en plusieurs phases. À chaque fois que la cathédrale Saint-Pierre a nécessité des restaurations, déjà à partir du milieu du XVIIIe siècle, on a réalisé qu'il y avait un sous-sol, il y avait des choses. Donc première étape, c'est en 1752. On construit le fameux portique néoclassique, donc ces grosses colonnes qu'on voit devant la cathédrale. Et c'est pour des raisons de statique. La façade de la cathédrale allait s'effondrer. Et pour cause, puisque dessous, il y a quelques petites choses intéressantes. On va construire ce portique, on démonte une partie de la cathédrale et on se rend compte qu'il y a quelque chose. Encore au 19e siècle, des changements, par exemple, du chauffage de la cathédrale, des travaux dans le sous-sol de la cathédrale montrent qu'il y a aussi encore des choses, mais l'archéologie n'est pas encore tout à fait au point pour imaginer des fouilles complexes et complètes. Et le point, en fait, de départ des grandes fouilles et du site archéologique tel qu'on peut le voir maintenant, c'est 1976, sous l'impulsion de Charles Bonnet, l'archéologue cantonal d'alors, qui va, dans un premier temps, fouiller l'église de la Madeleine, à peu de distance de la cathédrale, et qui va ensuite mettre en place, en collaboration avec des ingénieurs, une fouille systématique de la cathédrale, sous la nef, mais également les abords, les rues adjacentes, les cours, et ces fouilles vont durer environ 30 ans, avec une première ouverture du site dans les années 86-87.
Et à quel moment est-ce qu'on a des signes justement d'entropie, puisqu'on en a parlé, vous en avez parlé lors de cette visite?
Alors, de ce côté-ci de la cathédrale, de la ville de Genève, on a des premiers signes autour du IIe siècle avant Jésus-Christ. Du côté de Saint-Gervais, sur la rive droite, c'est beaucoup plus ancien. Donc déjà au néolithique, on a des installations. Mais de ce côté-ci, ce qu'on peut voir en tout cas dans le site, c'est notamment le squelette à l'obroge mort en sang avant Jésus-Christ. Donc c'est les premières couches qui en tout cas sont déterminantes. Il y en a quelques-unes encore avant, mais c'est encore sujet à hypothèse.
Alors, qui s'est succédé sur ce site-là? Quel type de population et dans quelle fonction ces bâtiments ou ces constructions ont-elles été dédiées pour la plupart?
Oui, alors dans un premier temps, on a des populations celtes. Donc, les celtes, c'est un ensemble de populations qui partagent le point commun de ne pas avoir de culture écrite. Et on ne connaît pas leur histoire par les écritures, on connaît leur histoire via les Romains un peu plus tard, on connaît leur histoire par le matériel. Et donc ces populations se sont installées au sommet d'une colline pour des questions stratégiques et aussi spirituelles. La colline était bien défendue, donc c'était pratique. À un moment donné, celles qu'on appelle les Allobroges à Genève se font vaincre par les Romains. Se font défaire plus exactement par les Romains et on a une population qui va se romaniser, donc qui va acquérir une culture romaine avec des produits romains et il va y avoir aussi une alliance où les Allobroges sont censés défendre la frontière du Rhône pour Rome. Ces populations ensuite vont donner laisser leur place à des chrétiens. Donc c'est toujours des populations romaines, mais qui vont petit à petit, céder la place à leurs dieux païens, à Jupiter et d'autres, pour donner place aux dieux chrétiens qui viennent par des légions romaines, notamment depuis le Proche-Orient. Et donc, ils vont petit à petit construire des bâtiments pour le culte, notamment des cathédrales, en donnant à la ville un statut de capitale avec le siège d'un évêque, le siège d'un évêché. Alors, c'est le siège de l'évêché. L'évêque a un pouvoir spirituel et politique. C'est ce qu'on voit dans le site archéologique. Il n'y a pas que des cathédrales, mais aussi des salles de réception qui n'ont pas forcément une vocation purement liée au culte. Et donc, oui, Genève va avoir une importance certaine pour cette période-là, mais comme d'autres villes aussi, Lausanne et d'autres, qui vont prendre de l'importance aussi au Moyen-Âge.
À ce moment-là, on observe qu'il y a également des cellules pour des moines. Il y a une ville un peu monacale là, où c'est dans la cathédrale.
Alors, on connaît très mal la vie en fait des clercs et des moines à cette période-là. Il ne faut pas forcément imaginer des communautés de moines comme on pourrait les imaginer au Moyen-Âge. C'est simplement du personnel qui est consacré, qui travaille dans la cathédrale et qui possède des logements accolés à la cathédrale, donc des cellules où ils peuvent vivre, dormir.
D'accord.
Mais pas forcément des communautés plus grandes ou des communautés cisterciennes comme on peut connaître beaucoup plus tard, des choses comme ça. On n'a pas de traces écrites de la liturgie et de comment ça se passe concrètement. L'archéologie, en fait, permet de rétablir un peu ça et de comprendre un peu mieux comment ça se passait concrètement.
Également, des cloîtres étaient dans les pourtours du site.
Alors, il y avait un cloître, c'est beaucoup plus tard, on est en l'an 1000, et ça vient prendre la place des bâtiments précédents, des cathédrales, de la cathédrale Nord en particulier. Donc, un bâtiment dans lequel, évidemment, il y a une vie administrative aussi et religieuse qui se crée, qui se développe.
Alors, vous venez de mettre le doigt sur un point important, les matériaux. Effectivement, les bâtiments se succèdent-ils en utilisant les matériaux des bâtiments précédents ?
Absolument, donc c'est fréquent. On va toujours réutiliser dès que possible des pierres déjà taillées. On a plusieurs exemples avec plusieurs périodes des bâtiments chrétiens qui sont en fait qui utilisent des pierres de remploi romaines, notamment des pierres tombales par exemple, comme dans le baptistère. Mais on a par exemple un chapiteau qui vient de Nyon, un chapiteau romain qui est réutilisé dans les fondations de la maison Mallet, donc du musée de la réforme actuelle. Donc là aussi, il peut y avoir des remplois avec peu de temps entre les réutilisations ou beaucoup de siècles. C'est fréquent.
Et alors, revenons-en à ces cellules, justement. Et en général, quelles étaient les infrastructures disponibles en termes de chauffage, en termes d'irrigation, d'accès à l'eau ? De quelle manière est-ce que la vie se déployait ?
Alors, dans le site archéologique, on connaît plusieurs endroits chauffés par un système de chauffage au sol, un système de canalisation d'air chaud, donc pas encore un système de chauffage au sol comme on le connaît maintenant avec de l'eau chaude, mais vraiment de l'air chaud qui vient tempérer les salles. C'est le cas en tout cas dans deux endroits dans le site archéologique. Il y a aussi des systèmes de sol à Hippocos, donc pour l'époque romaine, avec un système identique. Et puis pour l'eau, on a la connaissance de trois puits notamment qui sont des puits romains ou des puits encore au 4e, 5e siècle qui servent à notamment amener de l'eau pour le baptistère, pour le baptême, mais qui peuvent évidemment servir pour toute autre utilisation domestique.
Concernant les tombes, alors effectivement, y a-t-il des lieux sur le site qui sont des lieux réservés aux Maccabées, ou est-ce qu'effectivement on enterrait les cadavres à l'extérieur de la ville?
Oui, alors on peut déjà dire la chapelle des Maccabées ne s'appelle pas chapelle des Maccabées parce qu'il y avait des Maccabées. C'est là pour l'anecdote, c'est les frères Maccabées qui étaient des frères en Judée à l'époque hellénistique. Mais par rapport aux cadavres ou aux autres tombes, on a le squelette à l'Obroge, donc c'est un chef à l'Obroge enterré autour de 100 avant Jésus-Christ à l'emplacement actuel de la cathédrale romane. Et on a également au Moyen-Âge un ensemble vraiment conséquent de tombes sous la cour Saint-Pierre, l'actuelle cour Saint-Pierre, donc environ un millier de tombes qui montrent l'importance d'être enterré proche des lieux saints pour le salut de l'âme.
Encore deux petites questions si on a le temps. Ça vous va ? Alors, concernant si on retourne beaucoup en arrière, peut-on dire qu'il y a eu ici des sacrifices humains ?
Alors, ici on n'en a pas la preuve. Si on part à 100 mètres, 200 mètres en direction du musée d'art et d'histoire, à l'emplacement du complexe de Saint-Antoine, de la prison de Saint-Antoine, du palais de justice, on a retrouvé là un jeune homme sacrifié. Donc c'est des sacrifices humains à l'époque à l'Obroge. Les Allobroges avaient la tradition de sacrifier des jeunes hommes qui, selon les dires, étaient volontaires, en leur donnant des coups de de masse sur le crâne, et les réactions du corps et du mourant étaient censées prédire l'avenir. Et ces jeunes victimes expiatoires étaient en fait enterrées assises et laissées à la vue du public pendant plusieurs temps pour simplement commémorer et entretenir le souvenir de cette personne qui s'était sacrifiée. Donc on a un exemple comme ça au musée d'art et d'histoire où on voit encore le squelette assis avec le crâne défoncé. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu pour un emplacement un tout petit peu plus éloigné du site archéologique, mais pas tant que ça.
D'accord. Alors, concernant justement ce site archéologique, pourrait-on dire qu'encore aujourd'hui, des découvertes sont possibles, sont probables, ou est-ce qu'on peut dire que là, on est arrivé à un état des lieux qui est stable?
Alors, l'état actuel du site archéologique est destiné à être vu par le public, donc c'est un état de mise en valeur. Évidemment, il serait toujours possible de faire des trous un peu partout et de descendre dans des couches beaucoup plus profondes. Le problème de l'archéologue, c'est de savoir s'arrêter pour pouvoir mettre en valeur la bonne chose. Pour le baptistère, par exemple, c'est probable qu'il y ait des installations en dessous du baptistère, mais le baptistère est suffisamment intéressant et important pour le laisser tel quel. Pour les autres abords du site, pour la vieille ville, évidemment, des fouilles ont été faites à plusieurs époques, notamment par Blondel au milieu et début du XXe siècle, mais on a les problèmes évidemment d'habitation, des bâtiments souvent classés, on ne peut pas les détruire pour aller les chercher, et les problèmes, c'est qu'on ne peut pas faire de fouilles aussi, disons, de façon volontaire. C'est toujours lié à peut-être des restaurations, des choses comme ça. Donc, au sommet de la colline, c'est quand même quelque chose d'un peu plus improbable, mais enfin, on n'est pas à l'abri de surprise, comme le montrent les fouilles de Saint-Antoine ou les fouilles sous le cinéma L'Alhambra il y a quelques années également. Donc, dès qu'un bâtiment doit être rénové, on a des possibilités de découvertes complémentaires.
Donc, pour un archéologue, Genève est encore un lieu de curiosité.
Ça peut être encore un lieu de curiosité. Le centre-ville peut-être moins que la campagne, où on a des installations aussi chrétiennes très anciennes, et différentes choses, aussi des villas romaines ou des installations encore plus anciennes du néolithique. Donc,
a priori, à Genève, le site recensé le plus ancien, donc ce serait près de Saint-Gervais.
Alors, c'est le site le plus ancien au centre-ville. On est en 4000, 3000 avant Jésus-Christ. Pour les habitants encore plus anciens, il faut plutôt aller du côté de Verrier, du Salève, où on a des habitats encore plus anciens.
D'accord. Une dernière petite question, on s'arrête là. Concernant, alors, d'ores et déjà, pourrions-nous rappeler le site internet sur lequel les personnes peuvent aller se référer, chercher des informations pour les visites, etc.?
Oui, alors c'est un site très simple, puisque vous êtes dans un site archéologique, c'est www.site-archéologique.ch. On ne peut pas faire plus simple.
Très bien. Et concernant les étudiants, il y a ici à Genève une faculté d'archéologie ou...
Alors c'est la faculté des lettres qui dispense des cours en archéologie classique, donc c'est une discipline un peu particulière puisque ça s'intéresse à l'archéologie du sud des Alpes, surtout la Grèce, Rome, mais enfin le sud des Alpes de manière générale, le pourtour méditerranéen. Pour l'archéologie gallo-romaine au nord des Alpes, c'est plutôt Lausanne. Et pour tout ce qui touche à la préhistoire, c'est lié à la faculté des sciences de la Terre, sauf erreur, une faculté un peu différente pour étudier l'anthropologie, des choses comme ça. Et pour l'archéologie classique, c'est les lettres.
C'est les lettres. Merci beaucoup. Une toute dernière question concernant la datation. Vous en avez parlé lors de la visite. Le carbone 14 donc, est une méthode de datation qui connaît également des limites. Pourriez-vous nous en dire quelques mots?
Oui, alors le carbone 14, donc, c'est une façon de dater les organismes vivants comme les arbres et les êtres vivants, les hommes et les animaux. Vous avez en fait dans l'atmosphère du carbone 14, c'est un isotope radioactif du carbone, et toute votre vie vous en ingérez, vous avez des interactions avec ce carbone. Au moment de votre mort, cela s'arrête. Et donc on va déterminer par analyse des os ou du bois le taux résiduel de carbone 14 dans un individu, ce qui va permettre de dater le moment de sa mort, pas de sa naissance, mais le moment de sa mort ou le moment où le bois a été coupé. Évidemment, ça présuppose une réduction de manière linéaire de ce taux de carbone 14 dans le produit que vous avez analysé, ce qui n'est pas forcément toujours évident, parce qu'il peut y avoir des niveaux de radioactivité qui changent d'un endroit à l'autre ou aussi voilà,
dans les ça, vidéos, ça peut compenser d'une certaine manière ou...
Alors ça peut être compensé par la dendrochronologie, voilà. Donc c'est une autre méthode de datation uniquement pour le bois. Quand vous avez un morceau de bois, vous pouvez analyser ses cernes Et vous pouvez dater de ce point de vue-là, en fait, même la saison auquel un arbre, en fait, donc vraiment, c'est plus l'année, mais c'est vraiment la saison en fonction de la taille des cernes, de la physionomie des cernes. Et cette méthode-là, qui est uniquement pour le bois, permet de corriger d'une certaine manière le carbone 14, qui peut avoir des fluctuations et des imprécisions. Et à partir de là, on a une analyse au carbone 14 qui est plus précise.
D'accord. Donc, c'est-à-dire que les pierres ne peuvent pas être datées, mais ce sont les couches sédimentaires qui, elles, recèlent d'éléments organiques et qui sont datés.
Alors pour dater des bâtiments, dater des pierres, on ne peut pas dater la pierre par elle-même, on peut dater la pierre par éventuellement la façon dont elle est taillée, par les méthodes architecturales, mais plus encore c'est par les couches stratigraphiques, notamment si par exemple vous retrouvez un certain type de monnaie, certains types de vaisselle. Il y a des effets de mode, la vaisselle ça se casse, et donc ça permet de dater plus précisément avec ce qu'on appelle un terminus ante, c'est-à-dire au plus tôt, ce mur a pu être construit en telle année parce qu'on a tel type de monnaie, et il peut être construit au plus tard parce qu'à partir de là, on ne fait plus ce genre de choses. Alors, c'est une méthode de datation assez précise. On a parfois des datations plus précises simplement en trouvant une monnaie sur un niveau particulier que par des datations carbone 14 ou autrement dendrochronologie. On n'a pas évidemment du bois ou des squelettes partout, donc il faut tabler sur d'autres découvertes pour dater.
C'est un réel travail d'investigation, de recherche constant, j'ai l'impression. Pour en terminer, quels matériaux sont particulièrement utilisés ici? Quel type de pierre? Est-ce que le bois, effectivement, était beaucoup utilisé? Est-ce qu'on allait chercher des galets, justement, dans les rivières?
Alors, ici, on a ce qu'on retrouve, évidemment, c'est surtout les bâtiments importants construits en pierre, calcaire, et en tuiles, avec des toits en tuiles, mais on a évidemment aussi des bâtiments construits en torchis, en terre crue et en bois, qu'on ne retrouve malheureusement pas, sauf dans les cas d'incendie, où là le bois évidemment brûle, devient du charbon, et le torchis est encore visible. Donc il y a une mixité des bâtiments. Les bâtiments les plus importants sont construits généralement en dur et les autres en torchis.
D'accord. Et puis alors, on a juste un dernier exemple d'échange de savoir-faire avec cette technique africaine qui est importée ici. Oui. Donc, vous diriez un mot rapide?
Oui, donc l'opus africanum, littéralement l'œuvre africaine, c'est une façon de construire des murs en utilisant des gros galets de rivière. À Genève, l'arbre y pourvoit en mettant du mortier entre ces galets et par moment en créant des chaînages avec des blocs taillés pour créer quelque chose de stable. Ça, c'est le pouce africanum qui vient, encore une fois, qui a porté tradition culturelle et architecturale d'Afrique du Nord, apportée par les légionnaires qui, au moment de leur retraite, viennent s'établir à Genève ou dans d'autres régions. Et Genève se prête aussi à ce type de construction pour en tout cas une période.
D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous, on souhaite effectivement que beaucoup de monde vienne découvrir ce site. On l'a dit, il y a le site internet, on peut très rapidement savoir quand est-ce que les visites sont possibles. Et d'ailleurs, qu'en est-il de ces visites? Est-ce que, en quelques mots, les populations qui viennent sont-elles assez homogènes, ou il y a vraiment un petit peu de tout, des francophones ou pas, des gens qui sont un petit peu curieux comme ça, des spécialistes et des profanes?
Alors, on n'a pas assez de recul pour faire des analyses statistiques, mais donc les visites à la lampe de poche sont forcément des visites qu'on doit faire en dehors des heures d'ouverture parce qu'on est un tout. Donc c'est souvent des gens qui ne sont jamais venus au site archéologique, mais des gens de Genève qui sont curieux de découvrir en fait leur passé, les installations sous la cathédrale. Donc plutôt un public francophone également, mais qui est encore plutôt quand même assez mixte en fait.
Mais qui a souvent des questions ou en tout cas des remarques également.
Absolument, comme on l'a vu pendant la visite, et chacun a aussi ses propres expériences et peut apporter aussi une connaissance technique sur un point ou un autre. Donc il y a
ce qui fait qu'on peut dire qu'il y a
un public intéressé malgré tout.
Voilà, intéressé, puis qu'il y a une forme d'interaction qui s'installe de manière comme ça automatique.
Absolument.
Ouais. Très bien. Merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à vous.
Libre Radio, www.libradio.org. Le frisson de la radio, le murmure des mots, le soubresaut de l'idée et le séisme de l'acte. www.libradio.org.